Il suffit de visualiser un instant une maison avec la plus belle façade de tout le quartier, genre des colonnes majestueuses taillées sur mesure, des éclairages spectaculaires qui s'allument à la nuit tombée, une peinture d'une perfection absolue, quoi.
Ouais, le genre de maison où tu es obligé de t'arrêter quand tu passes devant, en fait.
Exactement. L'objectif est clair, c'est d'éblouir les passants, d'imposer le respect au voisinage. Et ça marche, hein? Le pari est complètement réussi.
Sauf que c'est le piège classique de l'esthétique pure.
C'est ça.
L'attention est tellement captivée par la surface, par ce qui brille, qu'on oublie totalement de s'interroger sur la solidité de la structure ou même sur sa véritable fonction.
Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Parce que, imagine, lorsqu'on franchit la porte d'entrée de cette maison si parfaite de l'extérieur, bah c'est la désillusion totale.
C'est-à-dire ?
En fait, il n'y a pas la moindre tuyauterie. Aucun câblage électrique ne fonctionne. L'intérieur est resté à l'état de chantier brut, complètement figé dans le temps.
Ah ouais, le décor de cinéma, en fait.
Carrément. La splendeur extérieure masque une réalité super cruelle. L'édifice est techniquement inhabitable pour les gens qui sont censés y vivre tous les jours.
Bah, cette analogie illustre vraiment parfaitement le grand paradoxe de beaucoup d'États modernes.
Ouais.
Il y a une obsession presque maladive pour la vitrine, pour la réalisation visible qui va briller tout de suite sur la scène internationale. Mais une nation ne peut pas indéfiniment faire l'économie de son infrastructure interne.
Absolument.
Si l'énergie sociale qui agirait un peu comme l'eau dont on métaphore de la plomberie ne trouve pas de canaux pour circuler, bah, la pression monte.
Et c'est ce mécanisme précis qui structure notre exploration d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle plongée analytique au cœur de l'information.
Ravi d'être là pour disséquer tout ça.
La mission d'aujourd'hui, elle est ambitieuse. On va essayer de comprendre comment une nation parvient à construire une véritable légitimité au XXIe siècle.
Vaste programme.
C'est clair. Comment transformer l'énergie d'une jeunesse bouillonnante en force motrice institutionnelle? Et surtout, comment concevoir un avenir qui ne repose pas uniquement sur des succès éphémères?
Et pour ça, on s'appuie sur une source unique aujourd'hui, mais une source particulièrement dense.
Oui, on va plonger dans l'édition du 18 juillet 2026 du magazine marocain Ideba, le numéro 31, publié par l'ODIG Média.
Et d'ailleurs, avant d'entrer dans la mécanique des textes, c'est super important de saisir la grille de lecture de cette publication.
Bien sûr, le contexte est clé.
En fait, leur charte éditoriale s'écarte délibérément du nihilisme ambiant ou du sensationnalisme qui sature souvent l'espace médiatique aujourd'hui.
Ouais, on évite le côté alarmiste à tout prix.
C'est ça. Le prisme choisi, c'est celui de la recherche de solutions et de l'innovation, tout en gardant un ancrage fort dans les constantes nationales. C'est une démarche qui refuse le fatalisme pour vraiment analyser comment les crises peuvent être converties en opportunités stratégiques.
Bon, décortiquons tout ça, car c'est là que notre histoire de façade prend tout son sens. Le fil rouge de cette réflexion, c'est un peu ce que l'on pourrait appeler l'illusion de la légitimité par l'exploit.
Tout à fait.
Et l'analyse du magazine démarre sur un ascenseur émotionnel national assez intense, à travers la chronique d'Adnan Debar, rédigée juste au lendemain de l'élimination des Lions de l'Atlas en quart de finale du Mondial 2026.
Un moment très lourd.
Ah, la déception est viscérale, tout le pays accuse le coup. Mais ce qui est fort, c'est que l'auteur se sert de ce choc, de cette tristesse, pour questionner la fondation même du récit national.
Et ce qui est fascinant ici, c'est la théorisation de l'évolution du contrat de légitimité au Maroc. L'article ne se contente pas du tout de parler de sport, hein ?
Non, ça va bien plus loin.
Il retrace une trajectoire historique hyper complexe. En fait, au lendemain de l'indépendance, la légitimité d'un État repose sur l'histoire, sur la construction même de la nation.
C'est la phase de fondation, quoi.
Voilà. Ensuite, pour asseoir cette nation, on glisse lentement vers une légitimité de développement qui se matérialise par la politique des grands barrages, électrification rurale, ce genre de choses.
Des choses très concrètes pour le territoire.
Exactement. Puis, face à la complexité économique mondiale, le pouvoir s'appuie sur une légitimité qu'on pourrait dire technocratique, justifiée par, tu sais, la maîtrise des indicateurs macroéconomiques, des équilibres financiers.
Mais le truc, c'est que la technocratie, c'est froid. C'est purement mathématique.
C'est très abstrait pour le citoyen moyen.
Totalement. Je veux dire, une population ne descend pas dans la rue pour célébrer un dixième de point de croissance du PIB ou une balance commerciale excédentaire. Il manque cruellement une résonance émotionnelle, un sentiment de fierté partagée.
Et c'est d'où la bascule récente vers ce que l'auteur définit comme la légitimité de la réalisation visible et de la reconnaissance internationale.
Ah, le fameux changement de logiciel politique.
Exactement. La validation ne vient plus seulement de l'intérieur, mais du regard extérieur.
Par exemple,
construire le TGV le plus rapide d'Afrique, posséder l'un des plus grands complexes portuaires mondiaux avec Tangemed, ou briller dans une compétition sportive planétaire. Le message subliminal envoyé à la population, ça devient en gros « Voyez comme le monde entier nous admire ».
Et on en revient exactement à notre métaphore de la construction de la façade majestueuse. Ces prouesses logistiques, diplomatiques ou sportives, ce sont de véritables tours de force, personne ne le conteste.
Ah non, c'est indéniable.
Ça génère une cohésion nationale fulgurante même. Mais le béton d'un mégaport, il se retrouvera pas dans l'assiette du citoyen. Et la joie d'un match gagné, ça paye pas le loyer à la fin du mois.
C'est brutalement vrai.
Si la façade n'est pas connectée à une tuyauterie interne capable de redistribuer la richesse et d'assurer une vraie mobilité sociale, l'édifice reste une coquille creuse.
Et l'auteur de la chronique pointe d'ailleurs la vulnérabilité extrême de ce modèle. Lier la légitimité d'un système politique à des succès sportifs, c'est une stratégie à très haut risque.
Parce que le sport, c'est par nature incertain, non ?
Exactement. Fondamentalement, le sport obéit à la loi implacable de la contingence. La victoire est provisoire. Si le contrat social repose implicitement sur l'allégresse d'une victoire, la part de légitimité qui a été, disons, artificiellement greffée sur cet événement, elle s'effondre à la seconde même où le coup de sifflet final scelle une défaite.
C'est ce qu'on appelle un rendement politique décroissant.
C'est ça.
L'euphorie s'évapore et la réalité du quotidien reprend ses droits, souvent de manière d'autant plus brutale que les attentes avaient été gonflées à bloc par l'événement. La conclusion de cette analyse de Débarre est limpide. La légitimité moderne ne s'achète pas avec des vitrines.
Non, pas sur le long terme.
Elle exige que ces réussites exceptionnelles soient métabolisées, transformées pour créer un progrès économique et social qui soit vraiment inclusif.
Il s'agit en fait de passer d'une logique de rayonnement externe à une logique de transformation interne.
Voilà.
Et la question qui émerge immédiatement après un tel constat, elle est purement mécanique. Si le modèle de développement par l'infrastructure et la diplomatie atteint ses limites sociologiques, quelle est la force capable d'installer cette fameuse plomberie interne? Comment innerver l'ensemble de la société?
Eh bien, le magazine iDébat apporte une réponse univoque. La seule énergie capable d'opérer cette transformation, c'est la relève générationnelle.
Les jeunes?
La jeunesse, oui. Et pas traité comme un simple concept démographique un peu abstrait, mais comme le moteur exclusif de cette ingénierie sociale. Et ça, ça nous amène à une prise de parole très stratégique qui est rapportée dans le magazine. C'est un discours du secrétaire général du parti de l'Istiklal, Nizar Baraka, devant l'Istiklal Youth Academy.
Ouais, un discours qui s'inscrit totalement en faux contre la fatalité du désengagement politique.
Il y va franco, hein.
Ah oui, le message adressé à la génération Z est frontal. Il dit « La politique n'est pas le problème du Maroc, elle fait partie de la solution ».
C'est une vraie tentative de rupture avec la culture de l'indignation passive qu'on voit beaucoup aujourd'hui.
Absolument. L'argumentaire insiste sur le fait que la critique permanente sur les réseaux sociaux, tu sais, à grand renfort de hashtags et de mèmes hyper cyniques, ça ne modifiera jamais le code source de la société.
Oui, ça défoule, mais ça ne change pas les lois.
C'est exactement ça. Le véritable levier de pouvoir, il se trouve à l'intérieur des institutions, dans les structures partisanes, là où s'écrivent concrètement les lois et où se décident les budgets.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais il faut marquer un temps d'arrêt, je pense. Et poser la question qui fâche un peu.
Vas-y, j'ai tweet.
L'intention de ce discours de Baraka est super louable, on est d'accord. Mais n'y a-t-il pas une immense dissonance cognitive?
Dans quel sens?
Demander à une jeunesse ultra connectée, hyper réactive, qui est souvent frappée par le chômage et méfiante, voire défiante envers l'establishment, leur demander de rejoindre des partis politiques traditionnels qu'ils perçoivent comme des machines bureaucratiques d'un autre siècle. C'est presque contre-intuitif, non ?
C'est un choc culturel, oui.
Pourquoi une génération qui invente littéralement ses propres codes de contestation en ligne accepterait-elle de se couler dans un moule qu'elle considère comme totalement obsolète ?
Eh bien, la friction que tu soulèves ici, c'est le point névralgique du débat, clairement. Et la source ne l'élude pas du tout, mais elle propose un pas de côté qui est super fascinant, en mettant ce discours partisan en résonance avec un séisme culturel majeur.
Ah, l'analyse d'Aziz Bouceta.
Voilà. Il analyse le 27e festival Gnawa et musique du monde des Sawira.
Quel phénomène sociologique ce truc, hein. On parle d'une ville côtière et Sawira d'environ 80 000 habitants en temps normal qui se retrouve soudain submergée par près de 300 000 festivaliers.
Une vraie déferlante.
une marée humaine très majoritairement jeune. L'effervescence est totale, stimulée par des fusions artistiques complètement improbables, comme la rencontre sur scène entre l'intensité du maître Gnaoui Hamid El Kassri et la puissance percussive du brésilien Carlinhos Brown.
C'est magistral.
Cette incarnation pure d'une jeunesse qui a soif de liberté, de connexion globale et d'expression brute, sans filtre institutionnel.
Et c'est justement cette énergie brute qu'il faut analyser. Parce que le festival Gnawa, ce n'est pas seulement des transes musicales ou des concerts. Il abrite également un forum des droits de l'homme, structuré avec le Conseil des communautés marocaines à l'étranger.
Oui, c'est pas juste la fête, il y a du fond.
Exactement. Et le thème retenu pour 2026 était ultra symptomatique. C'était « Jeunesse du monde, liberté, identité, avenir ». Ce n'est pas un hasard si le débat intellectuel de fond se greffe sur l'effervescence de la rue comme ça.
C'est une synergie assumée.
C'est la tentative de créer un pont direct entre l'énergie vitale de la société civile et le besoin urgent de structuration institutionnelle.
D'ailleurs, un échange précis de ce forum, qui est retranscrit dans l'édition d'e-débat, cristallise toute la tension de cette dynamique.
Oh oui, cet échange est marquant.
Le ministre marocain Mehdi Ben Saïd partageait la tribune avec l'ancienne ministre française Najat Vallaud-Belkacem. Et Ben Saïd a martelé en gros le même postulat que Nizar Baraka, c'est-à-dire l'impératif absolu pour les jeunes d'investir les champs d'action traditionnels.
D'entrer dans l'arène, en somme.
Oui, d'entrer dans l'arène politique formelle pour prendre le contrôle des décisions qui engageront leur avenir.
Et la réplique de Najat Vallaud-Belkacem a fonctionné comme un véritable électrochoc analytique dans la salle. Elle a posé le corollaire inverse de ce postulat.
L'avertissement ?
C'est ça. Elle dit que si les institutions échouent à absorber cette jeunesse, la nature ayant horreur du vide, cette énergie se déploiera de toute façon, mais ailleurs.
Et ça donne cette phrase glaçante de viscidité.
Oui, elle souligne qu'il n'est, je cite, « jamais agréable pour les pouvoirs publics de voir la jeunesse déserter les urnes pour descendre dans la rue ».
Si on reprend notre métaphore du début, avec la plomberie, la jeunesse, c'est une masse d'eau sous très haute pression.
Oui.
Si on lui refuse l'accès à la plomberie institutionnelle pour faire tourner les turbines de la société, l'eau ne va pas magiquement disparaître.
Non, elle pousse.
La pression s'accumule dans les murs jusqu'à faire exploser la façade. Les manifestations de rue, la contestation hors système, c'est exactement ça. C'est une rupture des canalisations due à un défaut d'ingénierie politique.
C'est une excellente image. Intégrer les jeunes n'est plus une démarche paternaliste ou une simple campagne de communication pour faire bien sur les photos. C'est devenu une condition de survie pour l'État face aux immenses défis de la décennie à venir.
Notamment avec le cap stratégique de 2035 en ligne de mire.
Exactement. La question glisse alors de la théorie à la pratique pure.
C'est-à-dire ?
Que produit réellement une société lorsqu'elle réussit cette intégration ? Que se passe-t-il quand l'énergie de la jeunesse est véritablement captée par des structures innovantes au lieu d'être refoulée dans la rue ?
Ah, ça, c'est le morceau de bravoure du magazine. e-débat propose une expérience de pensée radicale pour y répondre, signée par le chroniqueur Aziz Daouda.
Une projection dans le futur.
Oui, il projette le lecteur 20 ans dans le futur, directement en 2045. C'est un exercice de prospective étourdissant. Le texte imagine le destin de Ben Guerir, cette ville située entre Casablanca et Marrakech, métamorphosée en un pôle d'innovation absolue.
Une vraie utopie tech.
Dans cette vision de 2045, Ben Guerir a non seulement rattrapé, mais carrément supplanté la Silicon Valley américaine.
Rien que ça.
Oui. Et le réacteur nucléaire de cette utopie réalisée, c'est l'UM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique.
Et si l'on relie ça à la situation globale de l'économie, cette fiction, bien qu'elle soit une fiction, elle repose sur des fondations théoriques très solides. Hein.
C'est pas juste de la science-fiction gratuite.
Pas du tout. Le postulat, c'est l'abandon pur et simple du modèle académique classique hérité du XXe siècle.
L'université comme tour d'ivoire.
Voilà, l'université complètement isolée du marché, concentrée uniquement sur la publication d'articles de recherche obscurs. À la place, Ben Guerir 2045 impose le paradigme de l'université dite entrepreneuriale. La recherche n'a de sens que si elle aboutit à des solutions applicables et monétisables.
Et les statistiques fictives qui sont avancées pour 2045 sont vertigineuses. Ça dessine une vraie révolution de la création de valeur, genre 40% du corps professoral permanent détient ou dirige une start-up technologique.
40%, c'est massif.
C'est énorme. Mieux encore, un étudiant sur 5 fonde sa propre entreprise avant même d'avoir obtenu son diplôme. Le modèle économique national opère une mutation génétique complète.
C'est la fin du tout phosphate alors.
Exactement. La richesse ne dépend plus de l'extraction de ressources finies, dont le cours fluctue de toute façon sur les marchés mondiaux, mais elle repose intégralement sur la production inépuisable de propriétés intellectuelles. On parle d'algorithmes, de brevets en intelligence artificielle, de biotechnologies avancées.
C'est la bascule définitive vers l'économie de la connaissance. Mais l'aspect le plus saillant de cette vision géopolitique, c'est la stratégie de positionnement.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
L'UM6P, dans ce scénario, ne cherche pas du tout à cloner bêtement le modèle californien, tu sais, centré sur l'hyperconsommation numérique, les applications de livraison ou les réseaux sociaux.
Ah oui, le copier-coller qui rate souvent.
Voilà, elle construit sa suprématie en affrontant d'abord les défis vitaux du continent africain.
Ah, c'est crucial ça. Le stress hydrique, l'agriculture sous contrainte climatique sévère, l'indépendance énergétique, la santé publique dans des zones complètement enclavées.
C'est du concret.
Et en concevant des réponses technologiques viables pour l'Afrique, Ben Guérir produit par définition des solutions qui deviennent immédiatement indispensables au reste de la planète.
Que ce soit en Amérique du Sud ou dans les steppes d'Asie, toutes ces régions sont confrontées aux mêmes dérèglements climatiques.
Et la conséquence mécanique de cette centralité intellectuelle, elle est spectaculaire dans l'article, c'est l'inversion absolue du brain drain.
Ah, la fuite des cerveaux.
Oui, cette fuite qui vanquévise habituellement les pays du Sud au profit des métropoles occidentales. Dans la projection de 2045, le campus rassemble plus d'une centaine de nationalités. Ce sont les codeurs indiens, les ingénieurs européens et les chercheurs nord-américains qui s'expatrient vers le Maroc.
C'est le monde à l'envers, mais dans le bon sens. Et pourquoi ils font ça, Eve ?
Parce que l'écosystème offre le terreau le plus fertile au monde pour la libre circulation des idées, couplé à un accès massif aux capitaux d'amorçage.
C'est l'ultime stade de la légitimité, en fait. Un État qui garantit à sa jeunesse non seulement des opportunités locales, mais carrément le leadership mondial sur l'innovation.
C'est le rêve.
Cependant, bon, toute analyse systémique digne de ce nom nécessite un contrepoint. Que se produit-il à l'autre extrémité du spectre ?
Quand ça se passe mal ?
Voilà, quand un système politique choisit la voie inverse, referme les écoutilles, refuse le sang neuf et verrouille purement et simplement son appareil institutionnel.
Et l'exploration de cette trajectoire alternative est détaillée par le journaliste Mustapha Sihimi, qui livre dans le magazine une véritable autopsie de la situation politique en Algérie.
Et à ce stade précis de l'analyse, je crois qu'une clarification de la méthode s'impose pour nous.
Oui, absolument. C'est super important. Il est fondamental d'aborder la section qui suit avec la plus grande rigueur académique. Le but pour nous, ici, n'est de nourrir aucune polémique partisane et on ne prend aucun parti.
On est bien d'accord. On est là pour étudier un cas pratique de verrouillage institutionnel.
C'est ça. On s'appuie strictement sur les faits, les chiffres et les observations politiques tels qu'ils sont articulés par Mustapha Sehimi dans ce numéro de e-débat. Il s'agit uniquement de disséquer la mécanique d'un système à travers le regard et l'analyse de l'auteur.
Cette précision étant posée, l'analyse de Sehimi se concentre sur les élections législatives algériennes du 2 juillet 2026.
Et les chiffres font mal.
Oui, l'indicateur central de ce scrutin est d'une brutalité statistique incontestable. Le taux de participation s'effondre à 20,79%.
C'est un quintier de la population seulement.
Et à l'échelle de la diaspora, le chiffre frôle le néant, avec à peine 10% de votants.
Ça veut dire que près de 80% du corps électoral décide sciemment de tourner le dos aux urnes. C'est pas juste une baisse, c'est un désaveu d'une ampleur systémique. Et pour qu'un tel fossé se creuse, il faut nécessairement des mécanismes juridiques et administratifs profonds qui bloquent l'accès, en fait.
Et cela soulève une question cruciale. Comment le droit électoral peut-il être utilisé, non pas pour organiser la représentation populaire, mais vraiment pour la filtrer ?
L'article l'explique très bien.
Oui, l'article pointe minutieusement l'architecture de la loi électorale d'avril 2026 et plus spécifiquement son fameux article 200. Ce dispositif légal, selon l'auteur, a fonctionné comme un tamis politique d'une redoutable efficacité.
Et les conséquences sont directes. Ça a entraîné le rejet préalable de près de 3000 candidatures.
3000 ? C'est énorme pour un scrutin national.
Et selon l'analyse de la source, cette épuration en amont n'était pas du tout aléatoire. Elle a ciblé avec une grande précision les forces vives de la société civile, notamment les militants issus du VIRAC, ce mouvement de contestation pacifique historique, ainsi que les listes indépendantes.
Et sur quelle base légale peut-on écarter autant de monde ?
Les motifs invoqués pour invalider ces candidatures reposaient sur des notions très élastiques comme de supposées atteintes à l'ordre public ou des menaces à l'intérêt national, des choses très dures à prouver ou à réfuter.
Le mécanisme est donc implacable en évacuant cette présomption d'innocence pour lui substituer un pouvoir d'appréciation administratif complètement discrétionnaire. L'institution s'isole de toute voix discordante.
Le vide se crée autour d'elle.
C'est ça. Le résultat mathématique de ce scrutin sous cloche donne, sans aucune surprise, la victoire aux appareils historiques. Le FLN capte 90 sièges et le RND en obtient 73.
L'exécutif peut donc formellement revendiquer une majorité présidentielle au sein de l'hémicycle. Mais quelle est la véritable capacité opérationnelle d'un État qui tente de gouverner avec l'assentiment de seulement un citoyen sur cinq ?
C'est une légitimité très fragile.
C'est le triomphe de la forme sur le fond. La facette démocratique est maintenue. Oui, il y a bien eu un vote, il y a des urnes, des élus, des photos officielles. Mais la plomberie interne, dont on parlait, elle est complètement sectionnée.
Le pouvoir et la société n'habitent plus du tout le même fuseau horaire.
Et c'est ce que l'auteur qualifie de « mal-vivre structurel ». Quand les voies légales de la participation politique sont obstruées, la pression dont nous parlions tout à l'heure cherche inévitablement des échappatoires.
L'eau finit toujours par trouver un chemin.
Exactement. Et selon la source, cette rupture de la courroie de transmission produit deux hémorragies majeures. D'un côté, le fameux « brain drain », politique et économique, où les talents désertent un écosystème perçu comme sclérosé.
Ils partent chercher de l'air ailleurs.
Et de l'autre, l'expression la plus tragique de ce désespoir, c'est la harga, ces vagues d'émigration clandestine périlleuses à travers la Méditerranée.
Le télescopage entre ces deux modèles est franchement saisissant.
C'est le jour et la nuit.
D'un côté, l'utopie de Ben-Gurion 2045 rêve d'aspirer la matière grise mondiale grâce à l'ouverture totale de son environnement intellectuel. Et de l'autre, la réalité de ce verrouillage électoral décrit par Seimi pousse une nation à expulser sa propre énergie vitale.
La boucle est ainsi bouclée sur notre questionnement initial concernant la légitimité, en fait.
Exactement. Le contraste expose la mécanique très profonde du pouvoir. Une façade monumentale ou une victoire éclatante, ça peut offrir un sursis, tu sais, une parenthèse d'euphorie.
Le temps que les lumières s'éteignent.
Voilà. Mais un système qui ferme ses vannes institutionnelles à la relève se condamne lui-même à l'obsolescence programmée.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement au terme de cette exploration ? Il devient assez évident que la puissance d'une nation au XXIe siècle, elle ne se mesure ni aux tonnes de béton coulées, ni au nombre de médailles, ni même à la capacité de s'assurer des majorités parlementaires par des filtres administratifs.
C'est bien plus organique que ça.
Oui, la vraie souveraineté, la légitimité inébranlable, elle relève de l'ingénierie sociale. Elle consiste à construire la tuyauterie complexe qui permet à l'énergie de la jeunesse de circuler. C'est d'accepter le risque de les laisser intégrer les partis politiques pour bousculer le confort établi et de leur confier les clés de l'innovation scientifique pour concevoir l'économie de demain.
Et tout ça m'amène à pousser le raisonnement un peu plus loin, en guise de réflexion finale pour tous ceux qui aiment creuser le sujet.
Oh, j'aime quand on finit sur une perspective un peu vertigineuse. Vas-y.
Si l'on prend vraiment au sérieux la projection de 2045, une hypothèse radicale émerge. Si la véritable richesse des nations ne réside plus dans la géographie, ni dans le sous-sol, ni dans l'industrie lourde,
mais
exclusivement dans la production de propriétés intellectuelles par des universités entrepreneuriales et par l'intelligence artificielle, ne va-t-on pas assister à l'obsolescence du concept même d'État-nation territoriale né ?
Ah ouais, c'est une perspective théorique qui donne le vertige.
Oui, il est tout à fait plausible que la légitimité de demain, le vrai pouvoir souverain, n'appartienne plus à des frontières physiques défendues par des passeports, mais plutôt à des écosystèmes d'idées mouvants.
Des genres de super réseaux ?
Des hubs de connaissances mondialisées où la jeunesse nomade de la planète choisira librement de se connecter, d'investir son génie créatif, et même de payer l'impôt de son talent, non pas par contrainte nationale, mais par pure adhésion à la vitalité de la plomberie interne du système.
C'est une réflexion qui invite à s'interroger en permanence sur les structures de pouvoir qui régissent notre quotidien, vraiment.
Absolument.
Derrière chaque vitrine éblouissante, derrière chaque grand discours ou chaque victoire collective, il reste essentiel d'examiner la solidité des fondations et, bien sûr, la réalité du fonctionnement interne.
Toujours vérifier la plomberie.
Concevoir de manière super critique les trajectoires d'avenir. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée et à très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.